Né Arlensheim en quart il y a 2 semaines. Il s'agira d'un match simple, sans duel retour. Il faudra donc être performante le jour J pour les joueuses du coach Nadir Moussaoui.
Déjà samedi, c'est vraiment la forme du jour. Autant physiquement que mentalement, un petit peu tactiquement, mais je pense que la tactique, elle peut faire la différence sur un match serré. Mais le fait d'être bien devant ou un petit peu derrière, c'est vraiment la forme du jour. Aussi gérer le stress, gérer un peu les émotions, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions dans un Final Four, dans une demi-finale. C'est des matchs un peu différents parce qu'il n'y a pas de lendemain. Alors que tout le reste de la saison, même les quarts de finale, si vous avez un mauvais match, ben vous pouvez vous rattraper au match retour. Là, il faut être en forme samedi à 18h et puis il n'y a pas de lendemain. Donc c'est un peu ça la différence. Mais il n'y a pas de grosse préparation différente tactiquement contre Sion.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Le coup d'envoi de la demi-finale entre Blonay et Sion sera donné demain à 18h. En cas de victoire, les Vaudois seraient qualifiés pour la finale de dimanche pour y affronter l'équipe vainqueur du duel Winterthur Villars-sur-Glâne.
Après le Tour de Romandie, les routes de la région seront à nouveau empruntées par les cyclistes du Tour du Pays de Vaud à la fin du mois.
Le 25 mai, la 3e étape de l'épreuve emmènera le peloton d'Olon jusqu'à Villars au terme d'un parcours de 87 km agrémenté par 1300 mètres de dénivelé positif et de 2 boucles à travers les Chablais, Valaisans et Vaudois. La simple tenue du Tour du Pays de Vaud cette année représente une victoire en soi pour les organisateurs. L'an dernier, la manifestation avait dû être annulée en cause un manque de moyens financiers ainsi que de places de logement pour les athlètes. Cette année, tout fonctionne, mais l'avenir du Tour du Pays de Vaud n'est pas encore totalement assuré. Écoutez son directeur général Alain Witz au micro de Thierry Nicolet.
Je pense que si, comme on l'a entendu Madame Christelle Luzier, si l'État comprend que si on continue à nous demander de faire des choses incroyables, comme par exemple la sécurité, comme avoir une ambulance, c'est 12 000 francs une ambulance pour 4 jours. C'est énorme. On a un budget de 200 000. On a pratiquement déjà 50 000 balles qui sont investies dans la sécurité. Donc on sait qu'on a besoin de sécurité, mais ça a changé du jour au lendemain. On n'était pas prévenu. Donc s'il n'y a pas un peu plus d'aide, ce sera compliqué. Parce que chaque année, on reporte. Mais en tout cas, pour cette année, c'est bon. L'année prochaine, les étapes sont signées. Il faut voir ça avec le sourire.
Le Tour du Pays de Vaud débutera le jeudi 23 mai par un contre-la-montre à Gaulion et se terminera le dimanche suivant à Pomy. 17 sélections nationales seront présentes sur le bitume du canton, en plus de 3 équipes invitées.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Du Chablais.
Entre vous et nous.
Avec Cyril.
Bonjour et bienvenue entre vous et nous tous les vendredis à midi et demi. Les bons conseils de nos experts de la région. Aujourd'hui, nos experts Logipro SARL à Valdilier, Guillaume Boisdin. Bonjour.
Bonjour Cyril.
Alors, on le rappelle, expert immobilier avec brevet fédéral. De quoi on parle aujourd'hui?
On va parler d'une petite révolution qui s'est déroulée sur Genève au sujet de l'immobilier avec un magnifique consensus comme on sait si bien le faire. Alors, je trouvais que c'était l'occasion d'en parler.
Eh ben, pour une fois que c'est pas une gaine ferraille. Avec plaisir. Et je sais de quoi je parle. Ivano Bresson, bonjour, comment ça va Ivano?
Mais merci, ça va très bien.
On rappelle responsable de la Raiffeisen ici à Monté. Ivano, petite question que je vous ai posée l'autre jour. J'ai dit, mais dis donc, la Banque Nationale Suisse, est-ce qu'il n'irait pas à contre-courant des autres banques nationales? C'est ça qu'on va aborder.
Exactement, c'est une question très pertinente.
Ah bah je vous remercie, pour une fois je me sens moins con. Ça sera en deuxième partie. Entre vous et nous, c'est parti justement. Guillaume Boisdin, alors, cet accord historique à Genève, expliquez-nous.
Eh bien, il s'agit de la rénovation énergétique du parc bâti, qui concerne toute la Suisse, hein, bien sûr, la fameuse loi sur l'énergie, on va encore en parler. Mais c'est vrai que là, c'était l'occasion de parler de cet accord qui a été qualifié d'historique par les médias, puisque ce sont pas moins que les associations patronales, les syndicats, les milieux écologiques, les milieux immobiliers qui ont trouvé un accord, qui ont fait un réel consensus et qui se sont dit, voilà, on n'aura pas chacun tous ce qu'on veut, mais autant avoir un petit peu chacun que rien du tout, personne.
Et puis de se battre et puis de jamais y arriver à trouver une solution.
Donc c'est quand même un petit peu à l'image de la Suisse le consensus, et puis c'est prendre un peu sur soi pour continuer d'avancer. En plus ça concerne entre guillemets la planète, le climat, donc c'est bien.
C'est une belle évolution. Comment ça s'est passé alors? Comment ça a pu arriver, cette belle chose?
Alors, comme toutes et tous devraient le savoir, si vous n'êtes pas au courant, je vous le rappelle, nous avons voté la loi fédérale sur l'énergie il y a déjà quelques années. Les trois grandes lignes, hein, donc l'objectif, un des premiers objectifs temporels de cette loi, c'est 2050, donc ça arrive très vite. Hein.
Ouais.
Et les trois grandes lignes, c'est 1, baisser la consommation énergétique du pays, hein, global. 2, augmenter l'efficacité énergétique du pays aussi. Et puis 3, promouvoir les énergies renouvelables. Donc on a déjà fait beaucoup d'émissions là-dessus. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails, me répéter. Je laisserai nos auditeurs aller chercher les différents podcasts qui sont stockés sur le magnifique site de Radio Chablais, je précise. Mais en gros, le parc immobilier a clairement une part prépondérante de la consommation énergétique suisse.
Ouais.
Et puis ces fameuses passoire thermique, on en a déjà tellement parlé. Et donc, on est un peu loin du Chablais, mais on est à l'autre bout du lac, au lac de Genève.
Oui, mais ça peut justement donner un exemple pour toutes les régions. Après, je vous poserai d'ailleurs cette question.
Voilà. Eh bien, en décembre 2019, le Conseil d'État genevois quand même déclare l'urgence climatique. C'était quand même pas rien. D'autres ont emboîté le pas depuis, mais voilà, ils ont quand même acté, le Conseil d'État, décembre 2019, il y a une urgence climatique, il faut agir. Et puis, dans les objectifs du Conseil d'État pour le canton de Genève, en plus des objectifs de la loi fédérale, c'était 2030. Donc 2030, là, on y est très très vite.
Ouais, c'est demain.
C'était baisse, donc 2019, hein, ça date un peu, mais 2030, baisser de 60% les émissions de CO2 pour le canton de Genève. C'est quand même très ambitieux.
En 11 ans, ouais.
Et donc, l'accord qui a été trouvé, disons que c'est, si vous voulez, ça porte sur l'ensemble du parc bâti, sauf... Hormis, il y a toujours une exception, à l'exception des bâtiments publics, des bâtiments de l'État qui ont encore une loi séparée. Mais c'est quand même, rien que pour vous dire les chiffres, on sait que le canton de Genève est très bâti, on sait que les loyers sont les plus ou parmi les plus élevés de Suisse. Hein, c'est une région que vous aimez bien, Cyril.
On pratique.
Voilà, le parc de bâtiments publics à Genève, c'est 1480 bâtiments. Pour 1 865 000 m². Alors déjà, j'aimerais bien avoir à gérer ce portefeuille immobilier. Je vous le dis tout de suite, si à Genève, ils m'entendent, si vous cherchez un gestionnaire, vous pouvez m'appeler.
Je prends.
Mais donc voilà, le but, hein, à Genève, comme pour ailleurs en Suisse, par rapport à la loi fédérale, et puis donc maintenant à la loi cantonale, pour Genève, c'est bien sûr rénover en priorité les biens immobiliers qui sont les plus gourmands en énergie. Donc on en a déjà parlé dans d'autres émissions, on fait un audit. En général, c'est les gros bateaux, hein, qui consomment le plus de mazout, on connaît. Donc les gros immeubles sont très énergivores. Et puis dans ces gros immeubles, lesquels sont récents, lesquels sont anciens, on avait déjà parlé ensemble, hein. De mémoire, c'était un immeuble qui est construit avant 1986, consomme le triple ou le quadruple d'un immeuble moderne, puisque bien entendu à l'époque...
Parce qu'il y a la déperdition énergétique.
Voilà, alors j'avais une fois demandé à un collègue architecte à la retraite, mais pourquoi, mon Dieu, on isolait si peu les bâtiments à l'époque? Il m'avait répondu, mais mon pauvre ami, retourne voir combien ça coûtait un litre de mazout à l'époque, et puis c'était gratuit.
On ne se rendait pas compte.
Alors on n'avait pas besoin d'isoler, c'était gratuit, on chauffait gratuit, donc maintenant, on chauffe plus gratuit. On s'est rendu compte que c'était pas bon pour la planète. Et puis donc, rénover son bien en énergie, on a déjà à Genève maintenant 3 ans supplémentaires pour se mettre aux normes. Donc on voit que le temps passe et puis que c'est des dossiers très longs. Il faut mettre à l'enquête, ensuite il faut faire le chantier, etc. Demander subi. Et puis, la grande nouvelle aussi, c'est que pour financer ces rénovations, l'État va mettre la main à la poche, et pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'à l'origine, après la votation de l'urgence climatique dans l'État de Genève, l'État avait dit, OK, nous on va aider à payer à hauteur de 200 millions. On va mettre 200 millions sur la table, 200 millions de francs, pour aider les propriétaires privés, publics, privés institutionnels, à rénover leurs immeubles. Donc ce montant, il a été plus que doublé. On est passé maintenant à 500 millions. Donc l'État de Genève met 1,5 milliard de francs sur la table. On a la peine à se rendre compte de ce que ça représente pour justement rénover le parc bâti. Et 70% de cette enveloppe, donc 350 millions pour faire les maths, c'est destiné aux propriétaires privés.
Donc ça incite vraiment tout le monde.
Voilà, donc vraiment maximum d'incitation. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les émissions qu'on a animées autour de ces thèmes, c'est profiter de ces incitations, profiter de ces aides. Aujourd'hui, on vous aide encore à le faire. Peut-être que demain, on va vous obliger à le faire.
Mais est-ce que c'est ça qui a permis cet accord, justement ? Est-ce que c'est ces incitations qui ont permis que les gens se mettent autour de la table, ou alors est-ce que c'est les gens qui sont mis autour de la table qui ont permis ces incitations et ces montants ?
Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de dire qu'il y a un facteur qui compte énormément, c'est le temps qui passe. On s'est engagé sur des objectifs et puis on se rend bien compte maintenant, au bout de 3-4 ans, qu'on n'avance pas, on en a déjà parlé. Le taux de rénovation est toujours trop faible. Et puis, on a, je pense aussi, affaire à des femmes et des hommes qui sont avisés et puis qui se sont dit, bon, on va tous y mettre d'une autre. Vous vous rendez compte que l'ASLOCA et la Chambre immobilière se sont mis d'accord. Enfin, rien que ça, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment pour dire, même sur des sujets aussi touchy que le climat, en général, la Chambre immobilière et l'ASLOCA,
c'est du fight.
Voilà, c'est comme Titi et Rominet. Enfin, c'est toujours voilà. Là, non, pour une fois, hein, ils sont d'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on a 350 millions de fonds cantonaux qui sont destinés à la rénovation des bâtiments privés. À quoi viennent encore s'ajouter les subsides fédérales. Donc, c'est vraiment très important. Ce qui est très important aussi pour les locataires, c'est qu'ils ont eu leur mot à dire, parce que c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre de l'immobilier en Suisse. Les locataires, souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. L'ASLOCA a fait des concessions, mais elle a quand même tenu bon. Il sera impossible à un propriétaire d'augmenter les loyers si, au cours de sa rénovation, il a bénéficié de subsides.
C'est
bien.
Très intéressant.
Ce qui est normal aussi.
Parce que les loyers augmentent pour la valorisation du bien en général. Alors voilà. Que là, l'avantage, c'est qu'au moins les personnes qui habitent là savent qu'elles peuvent continuer.
Oui, puis je pense qu'il y a un statu quo. On sait que les locataires, en général, mais surtout à Genève, ils ont une pénurie de logements disponibles. Donc, ils ont énormément de peine à trouver à se loger. Les loyers sont extrêmement hauts. Donc, c'est vraiment des conditions de location qui sont très compliquées. Donc, c'est bien qu'ils aient droit au chapitre.
Il reste une minute, à peu près une minute trente.
Pour conclure, je pense que ce qui est très intéressant, c'est déjà, on continue de faire des efforts pour notre planète, pour notre climat, pour la performance du parc immobilier. On se veut un pays moderne, on se veut un pays pionnier. Donc c'est génial de se dire que non seulement l'État fédéral, mais aussi les cantons se bougent pour aller jusqu'au bout. C'est pas juste des grandes idées, des slogans. On va au bout des choses. L'État de Genève casse la tirelire, mais 1,5 milliard sur la table. Et puis ce que je trouvais le plus beau, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'était accord historique. Puis un consensus où on a mis autour de la table des gens qui parfois se tapent dessus à longueur d'année, puis là
on a trouvé des solutions.
Puis ça n'a pas été un accord youpi, tout le monde a dû faire des concessions, donc c'est ça qui est génial.
Donc maintenant l'espoir, ce serait que les autres cantons puissent faire la même chose.
Et bien vous m'avez compris.
On verra. Merci Guillaume Voisin.
Je vous en prie.
Logipro SARL à Valdivia, on le rappelle. Petite pause musicale, on se retrouve avec Ivano Bressan pour parler de la Banque Nationale Suisse.
Radio Chablais, programme de nuit.
Entre vous et nous, avec Cyril.
Deuxième partie de votre émission de conseils de découverte tous les vendredis entre 12h30 et 13h. On a parlé d'un accord historique à Genève dans le monde de l'immobilier avec Guillaume Boisdin tout à l'heure. Avec Ivano Bressan, on va essayer de comprendre pourquoi la Banque Nationale Suisse semble être complètement à contre-courant des autres banques nationales. Expliquez-nous ça.
Alors en effet, Cyril, elle a baissé ses taux d'intérêt avant les autres banques centrales, notamment les principales, la Fed et la Banque Centrale Européenne, la Fed étant celle américaine. Il est important pour savoir comment agit la BNS de rappeler quelques notions, et notamment le rôle de la BNS. Principalement, l'objectif numéro un, c'est de lutter contre l'inflation. Et elle s'est fixée une limite à 2%, qui est également la limite que les autres banques centrales se sont fixées pour limiter cette hausse des prix. C'est peut-être important de savoir aussi de quoi on parle. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur une définition assez brève de l'inflation en Suisse. Et lorsqu'on compare des choses, il est difficile aussi de comparer l'inflation de la Suisse avec d'autres pays, puisque chacun y va de son indice, et cet indice est composé de différentes manières. On le verra en Suisse. Donc c'est cet indice des prix à la consommation qui est abrégé sous forme de IPC. On l'entend souvent, qui est calculé chaque mois par l'Office fédéral de la statistique. Et il est basé sur un panier qu'on appelle communément le panier de la ménagère, mais qui ne comprend pas certaines dépenses. Par exemple, les primes d'assurance maladie, les impôts, les cotisations aux assurances sociales ne sont pas inclus dans cet indice. Comment cette inflation apparaît-elle ? Elle apparaît lorsque... la chose classique, c'est lorsque la demande est supérieure à à un bien produit. Lorsque la demande est très forte, cela fait grimper les prix. Il y a d'autres raisons qui sont liées à une hausse de prix. Ce sont notamment les coûts de la production ou la hausse des produits importés.
Ouais, puis après, il y a ce qui se passe aussi, la géopolitique, qui fait que l'insécurité est haute.
C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine qui a provoqué donc une flambée des prix de l'énergie et puis notamment des difficultés dans l'approvisionnement, ce qui a engendré des hausses de coûts. Mais une des grandes causes qui a été à la base de la hausse des prix ces dernières années au niveau mondial, ça a été les politiques monétaires qui ont été menées par les banques centrales. En quelques mois, elles ont inondé le marché d'argent. Et notre ami Friedman, qui doit se retourner de sa tombe, fameux économiste, a toujours dit que lorsque l'offre de monnaie est supérieure à la demande, qui peut être mesurée par le PIB, hein, le produit intérieur brut d'un pays, lorsque cette offre de monnaie est nettement supérieure à la demande, s'ensuit une inflation. Et parfois ça peut être catastrophique.
Parce qu'il faut rappeler que les pays ont injecté pour stimuler, entre guillemets, la consommation et le marché, puis pour aider aussi. Mais le problème, c'est que sur du moyen long terme, ça se retourne ensuite.
Voilà, alors après, la BNS est un bon exemple de cette injection d'argent qu'elle a fait de différentes manières. Elle a notamment acheté beaucoup de devises. Là, c'était pour sauver juguler la hausse du franc suisse. Mais il faut savoir aussi que cette inflation a de nombreux dangers et on a la mémoire courte parce que on a été habitué pendant des années à ne plus entendre parler d'inflation. Mais je peux peut-être paraphraser la déclaration d'un gouverneur de la Bundesbank à l'époque, lorsque on avait vraiment un phénomène hyper violent d'inflation dans les années 80, début 90. Et il a dit, lorsque le génie de l'inflation s'est échappé de la bouteille, il est très difficile de l'y faire entrer à nouveau.
Ouais.
On comprend bien l'image. Hein,
fuite en avant.
Voilà, c'est lorsque le phénomène s'enclenche, c'est vraiment très très difficile. Il peut y avoir un cycle inflationniste qui s'enclenche avec ce qu'on appelle la spirale 10 coûts salaire. Hein, lorsque les coûts augmentent, le salarié va réclamer auprès de son employeur une hausse de salaire pour faire face à cette hausse de coûts. Suite à cette hausse de salaire, il aura un pouvoir d'achat qui est plus important, qui va entraîner une dépense supplémentaire, qui va augmenter, donc la demande augmentant va augmenter par ce biais-là la hausse des prix, et c'est l'engrenage infernal qui peut être à la cause de beaucoup de maux. Une des conséquences, c'est qu'il faudrait provoquer une forte récession, très très forte, ce qui impliquerait une hausse du taux de chômage pour la casser, ou dans certains cas, comme l'exemple le plus flagrant, c'est le Venezuela, avec de l'inflation à 1000%, où là... c'était terrible. Il y a eu des millions de gens qui ont dû émigrer avec des conséquences.
Parce que l'argent vaut plus rien.
L'argent vaut plus rien. Ils ont, par exemple, rajouté des zéros comme lors de la Deuxième Guerre mondiale sur les Deutschmark. Un billet de 100, imaginez-vous, un billet de 100, une année après, vous rajoutez un zéro, c'est 1000. Votre salaire qui est de 100, une année après, il est de 1000, mais le prix du café est passé de 3 francs 50 à 35 francs, voire même plus. Donc c'est des choses qu'on a vraiment de la peine à s'imaginer, hein, cette inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que Raiffeisen a établi un sondage pour connaître un peu la perception de la population suisse par rapport à cette inflation. Et il y a des questions qui ont été posées. Comment ressent-elle l'inflation? Que sait-elle de l'inflation? Et c'est intéressant de voir que sur certains points, elle était très très au fait, mais dans d'autres, il y a des notions.
Les gens ne maîtrisent pas nécessairement tous les termes et les techniques.
Voilà, où la perception de l'inflation par rapport au poste de dépense, la réponse la plus celle qui est ressortie en première, c'était les primes d'assurance maladie. Même si c'était pas une cause pour eux de l'inflation, parce qu'on entend tellement parler de hausse de, ça n'arrête pas chaque année, et pendant 10 ans il n'y a pas eu d'inflation, mais on a toujours parlé de hausse des primes d'assurance maladie. Donc ils n'ont pas associé cette hausse des primes d'assurance maladie à l'inflation, mais pour eux bien sûr ça reste une préoccupation qui est majeure. Après aussi. si on parle de comment la population a pu estimer l'évolution des prix, si je vous pose la question, Cyril, qu'est-ce que vous pensez de l'inflation qu'il y a eu l'année passée, pour citer un chiffre, vous avez une idée?
L'année passée,
oui.
Au niveau suisse?
Oui.
Oui, je ne me souviens plus des chiffres exacts, moi j'avais 1,8, mais...
Pas loin, vous êtes mieux que la population suisse, et c'était 2,1, et la population suisse a estimé à 2,6, donc elle a été beaucoup plus négative par rapport à cette perception de l'inflation. Et puis, une autre question intéressante, si on vous pose la question, par exemple, d'un panier de 100 francs en 1990, quelle valeur aurait ce panier maintenant, selon vous, donc 34 ans après?
Alors, un panier, on imagine qu'un panier était à 100 balles.
Voilà.
Maintenant, la valeur.
Voilà.
Je crois que ça n'a pas triplé, non? Je dis des bêtises.
Alors, la population suisse était beaucoup perspicace que vous, parce qu'elle elle a dit 152 francs.
OK.
Donc, 50% de plus, et la réalité, c'était 147. Donc, très proche.
Et puis moi, j'étais loin.
Que, entre guillemets, 50%.
OK.
Et 300, ça veut dire que les prix auraient triplé. Imaginer le prix de l'immobilier alors qu'ils ont bien augmenté s'ils avaient également pris cette proportion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le phénomène inverse, qui est tout aussi négatif que l'inflation, c'est la déflation. Et là, on a vraiment la mémoire courte. Hein. Lorsqu'on a posé la question aux gens, les gens ne se rappellent pas qu'en 2020, par exemple, les prix ont baissé.
OK.
Les prix ont baissé. Il y a eu des périodes... 2012, 2013, 2015, 2016, où les prix ont baissé.
Ce serait très bien qu'on reparte en inflation de 3 ans, là.
Alors, il nous reste 2 minutes, Ivano, par contre.
Oui, alors, pour répondre à cette question, je l'ai dit tout à l'heure, donc le rôle de la BNS est de lutter contre l'inflation, et les taux de l'inflation ayant baissé régulièrement depuis décembre, ils ont passé de 1,7, 1,3, 1,2, 1,1 jusqu'en mars. Et c'est là que la BNS a pris sa décision de baisser le taux de 1,75 à 1,5. C'est la conséquence de cette baisse de l'inflation qui a été observée sur plusieurs mois. Donc il faut savoir aussi que c'est sur le long terme que la BNS lutte contre cette inflation. Il ne suffit pas qu'elle baisse d'un mois... en dessous de 2% pour se dire voilà, tout est en ordre parce qu'elle peut repartir. La preuve, c'est qu'en avril, elle est repartie. On est à 1,7.
Okay.
Donc on s'approche des. Et ce qui n'est pas le cas des autres pays, Banque Centrale Européenne n'a pas bougé ses taux qui sont toujours très élevés à 4%. Hein. Nous, on est à 1,5-4% Banque Centrale Européenne. Les Américains, ils sont à 5, entre 5-5,5. L'économie repart bien aux États-Unis. Par contre, les prix n'ont pas suffisamment baissé. Hein. On est toujours à 3,7 d'inflation d'après les derniers chiffres, donc nettement supérieur.
C'est beaucoup trop.
C'est pour ça qu'en Europe et aux États-Unis, on n'a pas baissé les taux. On n'est pas prêt de le faire ces prochains temps. Contrairement à la Suisse où on parle, les marchés ont déjà tenu compte d'une baisse de 0,5 de plus sur. Lorsque c'est d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'au niveau des taux long terme, les marchés ont déjà tenu compte de ça. Au niveau des taux hypothécaires, ouais. Au niveau des taux des crédits, il ne faut peut-être pas s'attendre à une baisse de ces taux-là ces prochains temps. Même si la BNS va effectivement baisser de 1,5 à 1,25 ou de 1,25 à 1% ces prochains mois leur taux.
Bon, on pourrait continuer encore longtemps, j'avais encore d'autres questions, mais je suis navré, Ivano. On arrive au bout du temps qui nous est apparti. Merci beaucoup d'avoir apporté ces quelques précisions. On rappelle qu'on retrouve cet entretien sur radiochablais.ch dès cet après-midi. Merci beaucoup, Ivano.
Je vous en prie.
Guillaume Boisdin, on rappelle qu'il était avec nous en première partie d'émission pour parler d'un accord historique dans le monde de l'immobilier du côté de Genève. Peut-être un exemple qu'on espère essaimer, qu'on voit essaimer dans d'autres cantons. Merci à vous.
Merci.
Bon appétit.
Merci. Merci.
Bon week-end. Bye bye.
Au revoir. Vraiment.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Tiens. La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, une spéciale dédicace à tous les Thibauts. Thibaut, 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 Thibaut. C'était une spéciale dédicace à tous les Thibauts, des Thibauts, toi Thibaut Doudou.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Si.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Demain, samedi 4 mai, Oniria Festival continue à faire bouger, monter. On en parle avec Gaël Chwendi, l'organisateur de ce festival. Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va découvrir demain? Ça va de nouveau mettre le feu dans la patinoire.
Exactement, on avait une première soirée la semaine passée qui était vraiment incroyable, on était quasiment sold out avec les années 90-2000. Et cette semaine, on revient avec des sons plutôt actuels, donc il y a vraiment un petit peu tout, de l'électro, de la pop, du hip-hop, un petit peu tous les styles actuels.
Alors, quelles sont les stars de la soirée, les têtes d'affiche demain?
Alors, on reçoit deux artistes qui sont NASA et Kublak, qui sont des artistes très actuels, ils viennent de sortir d'ailleurs chacun des titres qui sont classés dans le top Spotify. Donc, ils sont vraiment très, très appréciés en ce moment.
Alors, justement, demain, vous l'avez dit, électro-pop, latino, hip-hop et les deux showcases de NASA et Kublak. Une grande et belle soirée. Le but, c'est de faire la fête, c'est de s'amuser. Oniria, c'est des très, très jolis moments à la patinoire de montée.
Oui, on a installé en plus un écran de 10 mètres de haut, donc c'est la première fois qu'on le fait. On a dû rajouter même de l'électricité, de l'énergie dans ma patinoire parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc on a vraiment fait cette année un show qui est vraiment assez dingue.
Alors un show qui s'annonce justement assez dingue, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure et comment on prend les billets?
Alors les portes ouvrent à 22h, on a l'autorisation spéciale de fermer jusqu'à 4h du matin, donc arrêt de la musique à 3h30, donc on a vraiment toute la soirée devant nous. Et puis les billets sont disponibles sur le site du festival, donc c'est oniriafestival.com ou bien directement sur place.
Alors oniriafestival.com ou sur place. Gaël Chwendi, est-ce qu'on a tout dit pour l'Oniria? Demain, on rappelle, deuxième étape Montézanne après samedi passé, demain à 22h à la patinoire de Monté. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire?
Je crois qu'on a tout dit. On a vraiment passé un super moment, on se réjouit. On a vraiment fait une super première soirée et puis on va réitérer ça comme il se doit.
Avec grand plaisir. Oniria Festival.com, c'est demain dès 22h à la patinoire de Monté. Plein succès, merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Show, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le mag, c'est le Chablais dans toute sa splendeur. Son actualité du lundi au vendredi après 17h. Et on commence aujourd'hui avec le cycle d'orientation de Trois-Torrents qui fête ses 50 ans. Ouvert en 74, aujourd'hui, le CO de Trois-Torrents, c'est plus de 200 élèves et 25 enseignants. Et bien pour fêter ses 50 ans, l'école vous propose d'aller vous trémousser. La fête débute ce soir 20h avec le bal CO en couleur et se terminera demain samedi avec des ateliers prévus dans les salles du bâtiment scolaire. À l'occasion de ce jubilé, Guillaume Abbet a interviewé le directeur du cycle d'orientation de Trois-Torrents, Franck Berru.
Franck Berru, bonsoir.
Bonsoir.
On fête les 50 ans aujourd'hui de ce cycle d'orientation. Les célébrations vont se dérouler dès aujourd'hui le 3 mai et demain le 4 mai. Juste un petit rappel, peut-être pour les moins jeunes d'entre nous, avant 1974, comment ça se passait?
Alors avant 1974, oui, ça nous rajeunit pas vraiment. Les cycles d'orientation ont commencé à exister en 1974 dans le canton. Sinon avant, il y avait les écoles ménagères pour les filles. Et puis les classes de promotion pour les garçons, une fois qu'ils terminaient l'école primaire, ils partaient sur ces classes-là. Et dès 1974, les cycles d'orientation se sont progressivement installés dans le canton et à Trois-Torrents en 1974.
Vous-même, vous avez fréquenté ce cycle dans ces premières dizaines d'années. Maintenant, vous en êtes le directeur. Qu'est-ce qui a changé depuis la période où vous l'avez fréquenté, vous, ce cycle? Comment il a évolué?
Je dirais peut-être, pour résumer un peu les choses, progressivement, les garçons et les filles ont eu les mêmes programmes. Si on pense aux cours de gym, on pense aux cours d'économie familiale, aux travaux manuels et même à d'autres cours.